Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est Sébastien Arbogast qui vous parle en direct de Koh Lanta en Thaïlande. Oui, pour une fois, j'ai pas bougé d'un épisode à l'autre, mais ça n'est que partie remise puisque je m'envole demain pour Taïwan. Cela étant dit, et pour vous passer mes tribulations géographiques, on a pas mal d'actualités et aussi de courriers des auditeurs à couvrir sur cet épisode 22. Malheureusement, on n'aura pas d'édito de Plume, puisque Plume n'était pas disponible pour l'enregistrement de cet épisode. Ça n'est que partie remise, là aussi, évidemment. Donc, comme je le disais, on a du courrier des auditeurs, on a deux questions très intéressantes qui vont nous permettre de revenir sur des concepts assez intéressants et assez importants dans l'écosystème des blockchains et de la décentralisation. Ensuite, on va passer sur les actualités dans lesquelles on va parler de Constantinople. Évidemment, on doit faire un petit rappel des épisodes précédents et puis juste faire un bilan de ce qui s'est passé avec Constantinople. On va parler aussi d'événements assez gênants, on va dire, dans la communauté Ethereum. On va parler de la fameuse saga Quadriga CX pour faire la suite des épisodes là aussi dont on a parlé la semaine dernière. Et enfin, on parlera des acteurs de la tech qui commencent tout doucement à s'intéresser de près à la blockchain. Commençons tout de suite par le courrier des auditeurs. Avant d'attaquer en fait le courrier des auditeurs, je veux juste vous rappeler qu'encore une fois, n'oubliez pas que si vous avez des questions, des remarques, des suggestions par rapport au contenu de ces épisodes, des questions que vous vous posez, des choses qui ne sont pas suffisamment claires, surtout n'hésitez pas à venir poser vos questions justement sur le blog post lié à chaque épisode, sur le blog d'une manière générale, ou sur les réseaux sociaux, sur Proof of Cast évidemment, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. On est à l'écoute et encore une fois, ce podcast, c'est aussi le vôtre. Donc, on est toujours heureux de répondre à vos questions de la manière la plus didactique et la plus compréhensible possible. J'insiste aussi sur le fait que, donc pour l'instant, comme on est sur une certaine formule, hein, avec essentiellement des actualités, comme je l'avais expliqué il y a deux épisodes maintenant, donc dans l'épisode 20, on envisage de changer légèrement la formule du podcast pour y introduire ce que j'ai appelé les dossiers du Proof of Cast, c'est-à-dire une opportunité pour passer plus en détail sur un concept, une personne ou un élément important de l'écosystème avec un petit peu plus de recherche. Et tout simplement pour en savoir un petit peu plus sur les sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous auriez envie qu'on passe plus en détail, eh ben on a mis en place un petit sondage que vous pouvez aller compléter rapidement sur dossier.proofofcast.com. Donc là encore, dossier au singulier ou au pluriel n'est pas important. Les deux fonctionnent et en répondant à ces questions-là, ça nous permet de sélectionner les premiers sujets qu'on va traiter dans les dossiers du Proof of Cast à partir de la fin du mois de mars. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis, c'est très important pour nous. Donc, puisqu'on parle de votre avis et de vos questions, on arrive justement au courrier des auditeurs. Et alors, pour cet épisode, on a d'abord une question de Steve qui nous demande en commentaire de l'épisode 21, je le cite, « Bonjour, merci pour ces podcasts de qualité ». Merci à toi Steve. J'ai une question. Que pensez-vous des systèmes d'identification qui simplifient l'utilisation des clés publiques? Je pense à ENS, Ethereum Name System, Unique Name et sûrement d'autres. J'ai l'impression que la plupart de ces systèmes centralisent ces informations dans des bases de données. Sur ENS, pour obtenir un .eth, il faut déjà disposer d'un nom de domaine classique et le prouver via une signature dans un record TXT. De plus, pour qu'une marque puisse déposer un .eth correspondant à sa marque, elle doit faire une demande à l'équipe de ENS. Que penser de la gouvernance? Dans ce cas-là, autant utiliser des DNS existants pour enregistrer nos clés publiques dans des records texte et utiliser une DAP qui ferait l'association nom de domaine clé publique. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur ces types de systèmes, gouvernance, décentralisation, sécurité, usage, etc. Autrement dit, on va parler d'ENS. Alors merci déjà pour cette petite question. Steve, on va effectivement passer ça en revue. J'avoue que j'ai pas trouvé grand chose, enfin j'ai pas cherché grand chose entre nous soit dit sur Unique Name. Je me suis concentré sur ENS puisque c'est plus quelque chose de standard et qui a fait pas mal parler de lui ces dernières années, on va dire. C'est un système qui est assez populaire et on va voir pourquoi dans un instant. Alors déjà, pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, ENS, c'est quoi ? ENS, en fait, c'est l'équivalent décentralisé du DNS. Le DNS, c'est le Domain Name Service. C'est un service centralisé utilisé par tous les browsers du monde qui permet d'associer une URL à une adresse IP. Alors vous allez me dire, c'est quoi une adresse IP ? Oui, effectivement, si on n'est pas ingénieur réseau, c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît. Alors une adresse IP, c'est quoi ? C'est sûrement, vous avez déjà vu, ces séries de 4 nombres entre 0 et 255 séparés par des points. Vous avez ça sur votre réseau local, vous avez ça sur Internet. En gros, ces adresses IP, c'est les adresses qui permettent d'identifier les machines et qui permettent d'envoyer des requêtes à travers le réseau. Sauf que si vous deviez retenir vous-même en tant qu'utilisateur ces adresses IP, et si par exemple, pour pouvoir accéder à un site web, vous deviez taper l'adresse IP du site web dans votre barre d'adresse de votre browser, on ne serait pas sorti de l'auberge. Donc évidemment, pour pallier à ce problème-là, très tôt, on a inventé ce système de DNS qui permet d'associer un nom un peu plus facile à retenir à une adresse IP. L'autre problème qu'il y a aussi si on n'utilisait que des adresses IP, c'est qu'est-ce qui se passerait le jour où je change de serveur, où je vais installer mon site web ailleurs, dans un autre pays, etc., et où l'adresse IP change. Ça veut dire que je dois envoyer ma nouvelle adresse IP à tous les utilisateurs, évidemment, c'est pas très pratique. Avec le DNS, on a possibilité de créer une indirection, c'est-à-dire de dire à cette adresse IP, je veux qu'on puisse y accéder grâce à cette URL, donc à une adresse, et ensuite on peut changer cette indirection derrière sans que ça n'ait aucun impact sur les utilisateurs eux-mêmes. Donc c'est évidemment très pratique. Les quatre nombres dont je parlais tout à l'heure, entre 0 et 255, ça c'est l'IP, enfin c'est les adresses IP classiques. Évidemment, pour les plus puristes d'entre vous, ils auront noté que quand on parle d'IPv6, les adresses n'ont pas le même format, mais l'idée reste la même. Donc, tout ça nous amène au DNS, comme je disais. Avec un DNS, on rajoute cette indirection. Du coup, l'adresse du site, elle est plus simple à retenir pour l'utilisateur, et le serveur peut changer d'adresse IP, mettre à jour le registre DNS, et le tour est joué. Le souci, c'est que l'infrastructure de DNS, elle est centralisée. Au fond du fond, quand on regarde un petit peu la technique, l'architecture du machin, ça repose sur 13 serveurs racines qui peuvent potentiellement être attaqués ou détruits ou corrompus. Évidemment, ils sont protégés à hauteur du risque et de leur rôle dans l'infrastructure de l'Internet en général, mais tout ça coûte un certain prix et pose un certain risque quand même. Dans le monde des blockchains, c'est pas des adresses IP qu'on utilise pour communiquer entre les nœuds. On utilise quand même des adresses IP pour communiquer entre les nœuds du réseau. Ça reste, hein, puisque derrière une blockchain, ça reste basé sur Internet. Par contre, pour communiquer au niveau logiciel entre les smart contracts et les comptes, alors là, on utilise des adresses. Et une adresse, c'est quoi ? C'est une longue séquence de lettres et de chiffres qui en fait correspondent au code hexadécimal d'un grand nombre. Évidemment, c'est encore plus compliqué pour l'utilisateur de retenir, je crois que c'est 40 ou c'est des séquences de caractères assez longues. C'est complètement impossible pour un utilisateur de retenir ça. Et en plus, si on se trompe ne serait-ce que d'un caractère dans une adresse, on a vite fait d'envoyer de l'argent à un compte qui n'existe pas ou à un compte d'un attaquant, par exemple. Et c'est d'ailleurs un vecteur d'attaque qui a déjà été utilisé, par exemple, avec les wallets hardware. On en avait déjà parlé dans les épisodes précédents. En plus de ça, si vous vous souvenez de là aussi de ce qu'on avait déjà dit, quand on déploie un smart contract sur une blockchain, il est très difficile, voire même dans certains cas impossible, hein, jusqu'à très récemment c'était totalement impossible, de changer le smart contract en gardant la même adresse. Quand on veut changer un smart contract, en fait on doit le redéployer à une autre adresse, et donc on a de nouveau ce problème d'indirection, puisque ça voudrait dire que tous les utilisateurs du smart contract devraient connaître la nouvelle adresse. Donc, on devait jusqu'à présent utiliser des astuces pour rediriger les utilisateurs d'une implémentation à une autre en cas de changement. C'était un petit peu la misère, enfin jusqu'à l'invention de l'ENS en tout cas. Et c'est justement donc ici qu'intervient un système comme ENS. Donc ENS, encore une fois, ça veut dire Ethereum Naming Service ou Ethereum Name Service. Et ça permet, comme le DNS, d'associer un nom de domaine. Alors, ici, c'est essentiellement un nom de domaine en .eth à une adresse. Donc, l'association, elle se fait plus entre un nom de domaine et une adresse IP, mais entre un nom de domaine et une adresse au sens blockchain du terme. Alors, avec le système DNS, comme je le disais, il est centralisé. Donc, quand vous achetez un nom de domaine, vous devez passer par un intermédiaire, ce qu'on appelle un registrar, qui va être responsable de tous ces enregistrements de nom de domaine. Et vous devez payer ce registrar pour l'achat du nom de domaine et même pour le conserver chaque année. Vous devez continuer à repayer. Sur ENS, les noms de domaine sont stockés de manière décentralisée dans des smart contracts, donc non plus dans une base de données qui est centralisée dans un certain nombre de serveurs, mais sur l'intégralité des nœuds du réseau, comme n'importe quel smart contract sur la blockchain Ethereum. Donc c'est évidemment, ici on parle de la blockchain Ethereum uniquement. Et du coup, pour acheter un nom de domaine, on passe pas du tout par un registrar, mais on passe tout simplement par le smart contract qui permet d'acheter un nom de domaine. Et ces achats de nom de domaine se font par un système d'enchères qu'on appelle les enchères Vickery. Je vous expliquais un petit peu comment ça fonctionne, mais là encore, c'est pas du tout un registrar qui s'occupe de ça. Toute cette logique-là, elle est gérée uniquement par des smart contracts. Donc le principe d'une enchère Vickery, c'est quoi? C'est que vous déposez un bid sur un domaine avec un montant qui reste caché pendant 3 jours. Donc vous avez une première période de 3 jours. À partir du moment où vous dites, moi, ce nom de domaine-là, qui n'est pas encore réservé, évidemment, s'il est déjà utilisé, vous ne pouvez plus rien faire. S'il y a déjà quelqu'un qui a déposé un bid et que vous êtes encore dans la période des 3 jours, vous pouvez redéposer un bid à vous par-dessus. Si le domaine n'a jamais été réservé, alors vous pouvez initier une enchère et dire, voilà, pour les 3 prochains jours, moi, je pose un bid et je définis le montant. Par contre, ce montant, il est invisible par tous les autres membres de la communauté. Enfin, personne ne peut voir combien vous avez bidé sur ce nom de domaine. Pendant ces 3 jours, d'autres personnes peuvent aussi bider. Donc, ils peuvent aussi mettre une enchère sur le même domaine, encore une fois, sans révéler combien ils enchérissent. Et à la fin des 3 jours, tous ceux qui ont déposé une enchère doivent à ce moment-là révéler leur enchère, mais ils ne peuvent plus la changer. Donc on passe dans une deuxième phase, la phase de révélation, comme on dit. C'est-à-dire, une fois qu'on a passé ces 3 jours, on a 2 jours pendant lesquels tous ceux qui ont posé une enchère doivent la révéler, mais ils peuvent plus la changer. Donc ils peuvent pas dire, ah bah finalement lui il avait enchéri plus, donc je vais changer. Non, c'est trop tard. Et à la fin des 2 jours, on regarde tous ceux qui ont révélé leur enchère. Ceux qui ne l'ont pas révélé, bah, tant pis pour eux, ils perdent le montant de l'enchère. Donc s'ils avaient mis un Ether sur un domaine et puis que finalement ils révèlent pas leur enchère, eh ben tant pis, l'Ether il est perdu pour eux. Il est brûlé, tout simplement. Il n'est pas payé à qui que ce soit, il est juste brûlé. S'ils révèlent leur enchère, alors tous les autres enchérisseurs, évidemment, peuvent voir à ce moment-là quelle a été leur enchère. Et à la fin des 2 jours, donc quand on a laissé à tout le monde le temps de se retourner et de révéler son enchère, alors on regarde celui qui a l'enchère la plus élevée et c'est lui qui remporte le nom de domaine. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le nom de domaine va être réservé et va bloquer la somme correspondant à la deuxième enchère. Ça, c'est logique, hein, vous n'allez pas payer le montant initial que vous aviez mis, vous allez payer en fait le montant que votre plus proche concurrent avait mis, comme dans n'importe quelle enchère, en fait, quand on y réfléchit. Donc si par exemple, moi j'avais mis un Ether sur un nom de domaine et que quelqu'un d'autre a mis 0,5 Ether sur le même nom de domaine, eh ben je vais avoir 0,5 de mes Ether qui vont être bloqués sur un compte associé à mon nom de domaine. Ensuite, ce qui se passe, c'est que tous ceux qui avaient enchéri et révélé leur enchère, évidemment, mais qui ont perdu, du coup, qui avaient mis une enchère trop basse, eh ben, eux, ils vont simplement récupérer le montant de leur enchère, moins un petit 0,5% qui vont simplement être brûlés. Encore une fois, c'est payé à personne, ça va juste être brûlé. Et le but de ce mécanisme-là, c'est juste d'éviter les bits bidons, c'est-à-dire les gens qui vont mettre des enchères juste pour faire grimper les prix, quoi. Donc ça leur coûte quand même de l'argent de mettre une enchère, donc ils vont le faire quoi qu'il arrive avec un intérêt réel pour le nom de domaine. Et donc celui qui a gagné l'enchère à ce moment-là peut finaliser le processus, ce qui encore une fois va verrouiller ce montant du deuxième bid le plus élevé aussi longtemps qu'il garde le domaine. Et donc ça, c'est important aussi, c'est qu'en fait quand vous achetez un nom de domaine, vous l'achetez pas vraiment, vous le allez, vous mettez une enchère dessus, c'est ce montant, il est bloqué, c'est une espèce de caution, si vous voulez, et quand vous rendez le nom de domaine, vous récupérez la caution. Donc en fait, le nom de domaine, au final, il vous coûte rien, si ce n'est le blocage de ces fonds pendant toute la durée de la détention du nom de domaine. Donc voilà, ça c'est le principe de l'enchère vicurie sur ENS, et c'est la même chose pour tous les noms de domaine. En tout cas, tous les noms de domaine en .eth, hein, puisque c'est bien de noms de domaine en .eth dont on parle ici. Encore une fois, tout ce processus, ainsi que la gestion des records ENS, est géré par des smart contracts. Donc on n'a plus de base de données centralisée du tout. Donc, d'une manière générale, il n'y a a priori aucune nécessité de détenir un nom de domaine classique pour obtenir un nom de domaine en .eth. Aucune nécessité non plus de prouver l'existence d'un nom de domaine classique ou quoi que ce soit. Vous pouvez vous-même déjà aujourd'hui aller acheter votre nom de domaine et l'associer à votre wallet par exemple ou à un smart contract, etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si vous avez déjà un nom de domaine classique, donc un nom de domaine en... Alors en l'occurrence, ça ne fonctionne pour l'instant que, sur les noms de domaine en .xyz. C'est pas non plus les .com. Hein. Mais donc, si vous avez déjà un nom de domaine classique que vous voulez importer dans ENS pour pouvoir aussi l'utiliser et l'associer à un wallet ou à un contrat, par exemple, là, encore une fois, on se retrouve à la frontière entre le monde centralisé de l'ENS et le monde centralisé du DNS et le monde décentralisé de l'ENS. Et donc, à ce moment-là, vous devez effectivement... faire une procédure un petit peu plus aboutie dans laquelle vous devez prouver que vous possédez effectivement le nom de domaine que vous voulez importer dans ENS. Et ça se fait par un record TXT. Pour les plus techniques d'entre vous, vous voyez à quoi ça correspond. C'est comme quand vous devez prouver la possession d'un nom de domaine sur Google ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, à la fin de la procédure, vous pouvez éventuellement associer ce nom de domaine en .xyz à votre wallet ou à un smart contract par exemple. Pour l'instant, encore une fois, ça ne marche que pour ces noms de domaine en .xyz. À terme, ils voient pas, enfin, les équipes qui ont mis ça en place, les équipes d'ENS, ne voient absolument pas ce qui les empêcherait de faire la même chose pour les .com, etc. Mais on est encore dans une période de test. C'est une fonctionnalité qui a été introduite depuis septembre 2018 seulement. Donc voilà, vous n'avez pas besoin, encore une fois, de disposer d'un nom de domaine existant. J'ai acheté des noms de domaine sur ENS très tôt, à partir du moment où c'est sorti en 2017. J'ai regardé s'il y avait eu des modifications, des mises à jour depuis. J'ai pas trouvé vraiment de preuve comme quoi le processus se serait recentralisé. Donc, à part effectivement pour ce cas très particulier de l'import d'un domaine classique sur le système ENS. Donc voilà. J'ai pas encore une fois regardé très en détail Unique Name. Je vois qu'effectivement il est question aussi de d'identifiant sécurisé, etc. Maintenant, le gros avantage qu'a ENS sur n'importe quel autre protocole, c'est que il est développé avec le parrainage de la Fondation Ethereum, et donc il est intégré naturellement dans beaucoup d'app browsers, dans beaucoup d'applications liées de wallets. Par exemple, Ethereum. Et donc, dans beaucoup de ces applications, vous entrez un nom de domaine en .eth et il vous sort l'adresse tout seul parce qu'il est intégré directement avec ENS et il est capable de faire le lien. Et ça, c'est un des éléments évidemment les plus importants pour l'adoption du machin. Donc voilà, au final, encore une fois, réserver un nom de domaine, ça vous coûte rien dans le sens où c'est juste une caution que vous pouvez récupérer quand vous rendez le nom de domaine. Ça vous coûte pas plus cher dans la durée si vous le gardez 10 ans par rapport à si vous le gardez 1 an, contrairement à un nom de domaine classique. Donc c'est plutôt intéressant. Au passage, si vous voulez soutenir Chainskills, vous pouvez envoyer de l'Ether à chainskills.eth. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais je le dis quand même. Voilà. Trêve de bavardage. Tout ça est très intéressant. Donc, encore une fois, si vous n'étiez pas au courant de ENS, je vous ai mis plein de liens dans le blog vers la doc, vers comment créer son nom de domaine, comment le gérer, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'espère Steve que ça aura répondu à ta question. On passe donc à la deuxième question, la question de Camille, qui nous dit aussi en commentaire de l'épisode 21 « Bonjour, merci pour votre podcast, il est génial. » Merci, ça fait toujours plaisir. « Je serais curieux de savoir ce que vous pensez de IPFS. Ce n'est pas une blockchain, mais les paradigmes de décentralisation me semblent intéressants. Bonne continuation. » Alors, effectivement, on va parler un petit peu de stockage de fichiers et d'IPFS. Qu'est-ce à quoi donc que ce truc IPFS ? Alors, on rappelle au passage qu'une blockchain, c'est pas du tout conçu pour stocker des gros volumes de données. Pour la bonne et simple raison que tout ce qui est stocké dans une blockchain, bah, c'est répliqué sur l'intégralité des nœuds du réseau, ce qui aurait pour conséquence de faire exploser l'espace disque occupé par la blockchain sur chacun des nœuds. Et rappelons que cet espace disque, il est déjà pas dégueu en l'état actuel des choses. En plus de ça, ça augmenterait la latence des transactions, puisque quand, si on met beaucoup de données dedans, il faut que les transactions passent à travers le réseau, et ça mettrait beaucoup plus de temps si y avait des gros volumes de données. Et c'est exactement pour ces raisons-là que l'opération qui consiste à stocker des données dans l'état d'un smart contract, c'est l'une des plus chères en termes de frais de transaction, en termes de gaz, on appelle ça. Les frais, en plus, sont fonction du volume. Donc, plus vous voulez stocker de données, plus vous voulez mettre d'informations dans une variable, et plus ça va vous coûter cher. Donc, tout ça vient encore une fois des contraintes liées à la blockchain. Le truc, c'est que dans une application décentralisée, ce qu'on typiquement fait avec des blockchains comme Ethereum, vous utilisez généralement des smart contracts pour le back-end, mais vous utilisez des fichiers HTML, JavaScript, CSS pour tout ce qui est front-end, c'est-à-dire pour tout ce qui est interface utilisateur. Donc si votre back-end il est stocké de manière décentralisée dans une blockchain, mais que votre front-end, lui, est centralisé sur un serveur, évidemment, le système perd un peu de son intérêt. Donc la question qui se pose, c'est comment on stocke de manière décentralisée les fichiers d'un front-end web, et même au-delà, qu'est-ce qu'on fait de tous les contenus médias, multimédia, comme les fichiers audio, les images, les vidéos, etc. Et c'est justement ici qu'intervient IPFS. Alors IPFS, déjà, pour l'acronyme, ça veut dire Interplanetary File System, rien que ça. Interplanétaire, pouf, ça s'est posé. La blague à part, c'est un système de stockage décentralisé de fichiers indépendant de toute blockchain. Donc, même si on l'utilise très souvent en combinaison avec une blockchain, parce que c'est un cas d'école, il n'a pas besoin d'une blockchain pour fonctionner et lui-même n'utilise même pas une blockchain en interne. Il utilise des technologies tout à fait différentes. Et la façon dont il fonctionne, c'est qu'il découpe quand vous uploadez un fichier sur un serveur IPFS, il va découper votre fichier en plusieurs morceaux qu'il va ensuite chiffrer et qu'il va envoyer à travers plusieurs nœuds du réseau de manière à répartir ce fichier de manière équilibrée, on va dire, pour répartir la bande passante. Et ensuite, quand quelqu'un va demander ce fichier, on va pouvoir le reconstituer à la demande. Alors, on peut stocker des fichiers sur IPFS. À ce moment-là, chaque fichier bénéficie d'un hash, d'un hash cryptographique. Donc, ça va être son identifiant, en fait. Et on peut utiliser ce hash pour aller chercher ensuite le fichier. Et on peut aussi, évidemment, stocker ce hash, qui n'est ni plus ni moins, encore une fois, qu'une chaîne de caractères. On peut stocker ce hash dans un smart contract Ethereum, dans une variable d'état d'un smart contract Ethereum, par exemple. Donc, avec tout ça, on peut même servir des sites web entiers depuis IPFS, qui se posent en fait comme une alternative à HTTP, pour mettre les choses clairement. Et on peut même utiliser un nom de domaine ENS, dont on a parlé juste avant, pour pointer vers un hash IPFS. Donc vous pourriez mettre juste un site derrière, par exemple chainskills.eth, ça pourrait pointer vers le front-end d'une application décentralisée Ethereum. Maintenant, le souci avec tout ça, c'est que, comme je le disais, dans IPFS, il n'y a pas de blockchain et en particulier, il n'y a pas de crypto-monnaie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de crypto-économie non plus. En fait, il ne s'appuie que sur la bonne volonté des participants pour simplement opérer des nœuds, faire tourner des nœuds et donc stocker des morceaux de fichiers qui peuvent ensuite être récupérés par l'ensemble des autres nœuds. Donc, il n'y a aucun incentive, aucune motivation mise en place pour conserver des fichiers en ligne. Donc les fichiers qui sont les moins demandés, tout simplement, ils vont être stockés à un moment donné que sur certains nœuds. Les nœuds vont se déconnecter et plus personne n'en aura une copie. Et c'est pour ça, justement, que il y a des alternatives un peu plus sophistiquées, du coup, qui sont en cours de développement. Alors, par exemple, à la Fondation Ethereum, on travaille depuis longtemps. On travaille depuis très longtemps. Encore pardon. On travaille depuis peut-être trop longtemps, en fait, sur une alternative qui s'appelle Swarm. En fait, Swarm, les premières idées de Swarm datent des tout débuts d'Ethereum depuis 2015 et de ces concepts de Web 3.0 qui flottaient déjà à l'époque. Et donc, c'est un projet qui est très vieux, mais qui n'est toujours pas en production et qui, d'après les dernières nouvelles, n'est vraiment pas prêt de l'être. Pour autant, son objectif, c'est d'utiliser une crypto-économie, donc de mettre en place des incentives économiques pour financer l'hébergement de fichiers. Et en plus de s'intégrer avec des logiciels de nœuds Ethereum existants comme Get, Mist et tant d'autres. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous feriez tourner un nœud complet Ethereum, vous pourriez en même temps faire tourner un nœud Swarm sans devoir installer un logiciel à part. Ce qui évidemment est un gros avantage par rapport à IPFS, où même si vous avez déjà votre base de données, enfin vous avez déjà votre blockchain Ethereum qui tourne, vous devez aussi installer le logiciel IPFS en plus. Donc c'est deux réseaux séparés. Ici avec Swarm, ce serait les deux fusionnés. Le souci avec Swarm et la raison qui fait que le projet traîne un petit peu en longueur, c'est qu'il rajoute tout un tas de trucs très avancés dont il est difficile de dire s'ils sont vraiment indispensables à une première version. Voilà, il y a des histoires de communication interne, il y a des gestions de droits d'accès, etc. Il y a des éléments assez sophistiqués rajoutés par-dessus ça qui font qu'effectivement on attend désespérément ne serait-ce qu'une première version où l'ombre du bout de la queue d'une première version, pour l'instant, c'est pas là. Et puis, en plus de tout, donc on a parlé d'IPFS, on a parlé de Swarm. En plus de ça, à côté de ça, vous avez toute une série de projets indépendants qui ont des objectifs similaires. Je vais citer ici que Filecoin, mais avec toujours cette idée que si on veut pouvoir stocker des gros fichiers, des fichiers rares et sur du long terme, il faut aussi motiver les gens à le faire, motiver les gens à garder ces données à disposition. Et donc, il faut mettre en place une crypto-économie autour. Évidemment, le challenge pour tous ces systèmes, c'est de créer les bons incentives pour financer le stockage dans la durée, mais aussi de s'intégrer au mieux avec des réseaux déjà existants pour éviter nécessiter de redéployer de nouveaux nœuds. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que on a parlé là aussi dans les épisodes précédents de l'initiative de Tron, hein, qui a, on le rappelle, racheté BitTorrent et qui veut maintenant, qui a commencé à vendre son token BTT. Et l'objectif du token BTT, c'est justement aussi de motiver les gens à partager des fichiers un peu plus rares en simplement les finançant et en leur permettant de gagner de l'argent avec ça. Donc c'est là où effectivement l'initiative de Tron, de BitTorrent avec son BTT est particulièrement intéressant, même si encore une fois c'est pas lié avec Ethereum, c'est complètement indépendant du système et ça n'utilise pas, en tout cas BitTorrent lui-même n'utilise pas une blockchain, mais c'est vrai que si c'est intégré dans le client BitTorrent qui lui est déjà déployé sur plusieurs dizaines de millions de nœuds à travers le monde, ça peut faire la différence, donc ça aussi c'est un truc à suivre, un sujet à suivre de très près. Tout ça pour dire que pour moi, une fois qu'on aura résolu les problèmes de scalabilité de la blockchain, hein, sur lesquels on est très occupé pour l'instant, clairement le stockage de fichiers décentralisés, c'est un peu le prochain gros problème et c'est un prochain élément nécessaire pour que les blockchains et les smart contracts et les applications décentralisées implémentent leur plein potentiel, on va dire. Donc offrent un maximum de cas d'utilisation. Donc affaire à suivre, mais effectivement, donc IPFS, ça existe déjà, ça tourne déjà, avec un certain nombre d'inconvénients, à voir comment ça va se positionner par rapport aux alternatives qui sont encore en cours de développement. Et voilà Camille, j'espère que ça répond à ta question. On va donc passer maintenant à l'actualité, en commençant par un petit résumé de ce qui vient de se passer avec Constantinople. Alors, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 1er mars, il est près 18h30 heure thaïlandaise, donc qui doit être à peu près un peu plus de midi heure européenne, et ben ça fait un peu plus de pas de bêtises, enfin voilà, ça y est, le bloc d'activation de Constantinople est passé. C'était le bloc 7 280 000 qui a été miné avec succès le 28 février à 19h52 UTC. Et donc les deux hard forks successifs qu'il comprenait ont été activés. Donc on se souvient, il y avait Constantinople qui devait activer 5 EIP, donc 5 améliorations, et puis on a rajouté une espèce de hard fork immédiat, si on veut, juste pour désactiver un des EIP, et celui-là s'appelle Saint-Pétersbourg, qui est plus un technique, c'est juste un détail technique, mais en gros l'idée c'est un Constantinople modifié, quoi. Et donc ça a été activé avec succès encore une fois le 28 février dans la soirée. Pas de changement directement visible pour tout le monde, si ce n'est que si vous allez voir sur Etherscan, vous allez vous rendre compte que dans le bloc juste précédent, le bloc reward, donc pour les mineurs, était de 3 Ethers, et dans celui-là, il est passé à 2 Ethers. Donc on a déjà diminué la prime de minage de 33%. Donc avec ça, on va passer d'un taux d'inflation de 7,5% à environ 4,5% d'inflation annuelle. Donc ça va changer un petit peu la logique économique d'Ethereum en tant que crypto-monnaie. Mais c'est le changement le plus visible. Sinon, le reste, c'est essentiellement des changements techniques qui vont avoir un impact un peu pour les développeurs, mais pas vraiment pour les utilisateurs. Pour rappeler un petit peu le contexte pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, Constantinople était prévu à la base pour octobre 2018, donc juste avant la conférence DEFCON 4. Finalement, l'implémentation d'un des EIP posait problème sur les réseaux de test, donc ça avait été repoussé à janvier pour laisser passer les fêtes et tout ça, et puis prendre le plus de temps pour tester. Donc début janvier, il était censé activer ce nouveau hard fork, et deux jours avant l'activation, comme on dit en Belgique, bardaf s'est lambardé, on se rend compte que, ah mince, il y a un bug assez gigantesque quand même dans un des 5 EIP, le 1283, qui aurait ouvert la voie à un bug réentrant, donc même genre du truc de cochonnerie qu'on avait vu avec The DAO, qui aurait été particulièrement gênant. Donc du coup, la décision a été prise à ce moment-là de tout simplement supprimer le IP 1283, de tout retester, parce que du coup il pouvait y avoir des dépendances quand même, donc on a tout retesté les 4 autres pour être sûr que ça, on n'avait pas tout cassé, et ça a pris du temps, et du coup il fallait à tout prix que ça passe le 28 février, enfin que ça passe maintenant, puisque entre temps la bombe de difficulté avait commencé à rentrer en action, et donc les délais de minage des blocs commençaient à dangereusement ralentir, ce qui aurait eu tout un tas de conséquences fâcheuses pour le réseau. Aujourd'hui, d'après le Fork Monitor, il semble qu'il n'y ait pas de split, donc a priori tous les acteurs étaient synchro, et les nœuds ont basculé sur la nouvelle chaîne sans aucun souci, donc en gros, circuler, il n'y a plus rien à voir, hein. Ce qui n'est pas plus mal, parce que ça va permettre aux développeurs, aux mineurs et à la communauté dans son ensemble de se concentrer sur tout le boulot qu'il y a encore à fournir pour la suite, sur les prochains hard forks, sur Serenity, et accessoirement aussi sur ce débat qui reste ouvert autour de ProcPow, c'est-à-dire cette amélioration qui devrait à terme essayer de se débarrasser des ASICs Ethereum et donc rééquilibrer le marché des mineurs. Donc ça reste encore en suspens, ça n'a évidemment pas été intégré dans Constantinople. À voir, est-ce que ce sera est-ce qu'on devra attendre Serenity, ou est-ce qu'on devra faire encore un hard fork intermédiaire avant? C'est l'option 2 a priori qui est la plus probable, mais reste à voir tout ça, comment ça va se dérouler. Et bien sûr, comme je le disais, il y a tout le travail derrière sur Serenity, sur le Proof of Stake, sur le sharding qui continue à avancer, et c'est bien qu'on ait pu mettre Constantinople derrière nous. Maintenant, ça c'était pour Constantinople. Je voulais quand même faire un petit retour sur un truc qu'on avait évoqué assez rapidement la dernière fois, puisque il se trouve que ce hard fork aura quand même laissé quelques traces dans la communauté Ethereum. Je vous explique. Dans l'épisode précédent, on vous parlait de certaines voix notoires qui commençaient à s'élever un petit peu contre le système de la bombe de difficulté. C'est-à-dire, pourquoi, en gros, décaler sans arrêt cette bombe de difficulté à chaque hard fork en disant on n'est pas encore prêt avec Serenity, quand Serenity sera prêt, enfin quand le Proof of Stake sera prêt, alors on pourra supprimer la bombe de difficulté, mais pas avant. Mais du coup, là, on l'a redéplacée d'un an. A priori, ce sera, elle va se remettre en action en février 2020. Sauf que c'est à peu près sûr qu'en février 2020, on n'aura pas encore le Proof of Stake. Donc, on devra encore une fois la décaler, on devra encore une fois diminuer la récompense de minage. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, certaines personnes, dont ce développeur qui s'appelle Afri Shodan, avait commencé un petit peu à dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette bombe de difficulté? Est-ce que finalement les objectifs n'auraient pas changé et est-ce qu'on ne devrait pas la supprimer au final? Suite à ça, il y avait certaines personnes qui avaient trouvé déjà cette affirmation un petit peu anticonventionnelle pour le moins. Et en plus de ça, Afri Shodan s'était fait aussi remarquer avec une petite remarque assez provocatrice balancée sur Twitter, dans laquelle il positionnait Polkadot, qui est une technologie développée par la société Parity, pour laquelle il était employé, de dire que Polkadot, en fait, était ce que Serenity aurait dû être. Donc, en gros, de positionner une technologie de Parity, par opposition à la technologie qu'on attend tous, poussée par la fondation Ethereum, mais évidemment supportée et soutenue par toute une communauté. Toute une communauté qui, en l'occurrence, n'a pas du tout apprécié les provocations, ou en tout cas le ton un petit peu nonchalant, je dirais, de la remarque d'Afri Shodan, et ils lui sont un petit peu tous tombés dessus comme la misère sur le bas peuple, et ça a donné des conséquences assez fâcheuses, puisque c'est allé assez loin. Certaines personnes ont proféré des menaces, y compris des menaces à la vie du monsieur, enfin ça s'est emballé en fait sur les réseaux sociaux, sur Twitter et notamment sur Reddit. C'est parti un petit peu en sucette. Et voilà, et ces critiques au vitriol ont eu un petit peu raison de lui. On l'a accusé accessoirement de conflit d'intérêts, puisqu'il était directement impliqué évidemment dans Parity qui développait Polkadot et donc il faisait la promo de ça par rapport à Ethereum. Enfin voilà, c'était un petit peu limite, on va dire, d'un point de vue positionnement, mais pour autant, est-ce que ça justifiait un assassinat public tel que celui dont il a fait les frais? Clairement pas. Et donc, le fait est que suite à justement toutes ces menaces et à toutes ces critiques un petit peu violentes, après avoir contribué finalement de manière assez importante au code d'Ethereum depuis 2015 quand même, il a tout simplement quitté le projet. Il a quitté les réseaux sociaux aussi, pour se protéger et protéger sa famille, et puis tout simplement il a arrêté de contribuer au projet Ethereum, ce qui est quand même, on l'avouera, pas très construct, enfin comment dire, ce qui est assez destructeur pour la communauté. On a besoin de gens intelligents, on a besoin de contributeurs comme lui, donc ça représente quand même une perte non négligeable pour malgré toute la provocation et les débats que ça a pu, enfin que ces remarques avaient pu déclencher. Donc, tout ça pour dire que, encore une fois, il a depuis précisé qu'il se retirait complètement d'Ethereum et de Parity. Et évidemment, cette démission a déclenché des réactions assez sèches de plusieurs acteurs majeurs d'Ethereum et de la blockchain en général. Par exemple, Hudson Jamieson, je crois qu'il est responsable de tout l'aspect communautaire dans la fondation Ethereum, s'est fendu de quelques commentaires et sur Twitter et sur Reddit et sur son blog. Où voilà, il s'énerve un petit peu contre la communauté Ethereum et contre ses tendances un petit peu tribales, voire violentes, quand il s'agit de débats comme ça. Vous avez aussi Andreas Antonopoulos, qui a manifesté aussi son mécontentement et qui a aussi, dans une intervention qui, comme il les fait régulièrement dans des conférences, a des arguments très intéressants. Je vous invite à regarder la vidéo dont je vous ai mis le lien dans le blog post. Encore une fois, vous allez voir, les arguments sont assez percutants. En gros, ce qu'il dit, c'est que faudrait vraiment qu'on arrête de se bouffer le nez les uns les autres, puisque vu, enfin, d'un point de vue extérieur, pour le monde extérieur, on est tous les mêmes bizarroïdes, on est tous les mêmes aliens qui sont en train de s'échiner à faire fonctionner un truc décentralisé. Donc, il y a vraiment aucun intérêt à se manger le nez entre nous. Mais bon. Donc voilà, tout ça est plein de bon sens. Même suite à ces nombreuses protestations, il y a une lettre ouverte qui a été publiée sur Breaker Mag et co-signée par plusieurs acteurs, encore une fois notoires de la communauté, pour rappeler un petit peu à la fin de ces comportements tribaux assez destructeurs. Parce que voilà, il est un fait que les visions multiples sur chaque problème et les débats dans la communauté, c'est un peu l'essence même d'une initiative comme Ethereum ou même de n'importe quelle communauté décentralisé, on peut tout à fait marquer son désaccord, on peut avancer des opinions de manière constructive, on peut argumenter, mais on n'est pas obligé d'avoir recours à la menace ou aux attaques ad hominem pour détruire les gens et les faire fuir. Voilà. Encore une fois, pour moi, il faut quand même pas négliger l'impact des réseaux sociaux dans cette histoire, parce que souvent ils font leur blé sur des réactions émotionnelles, sur des jugements à l'emporte-pièce, sur voilà. Et puis d'une manière générale, ils offrent une caisse de résonance à des espèces de bullies qui se cachent un petit peu derrière leur anonymat. Et en même temps, voilà, l'anonymat, c'est l'absence de responsabilité qui peut en découler, bah, c'est un peu au centre même de la décentralisation de la blockchain. Donc, on peut légitimement s'interroger sur la pertinence, en fait, de révéler même son identité réelle quand on contribue à ce genre de projet. Hein, c'est typiquement pour ce genre de raison que Satoshi avait probablement préféré ne pas révéler son identité, que d'ailleurs certains continuent à ne pas révéler leur identité, même quand ils participent à des événements publics, à des conférences, etc. Ils gardent leur visage caché, ils révèlent pas leur vrai nom, ils fonctionnent qu'avec des pseudonymes, etc. C'est aussi pour ces raisons-là. Et en même temps, vous avez des acteurs assez importants, comme Vitalik Buterin, par exemple, qui lui n'a eu aucun problème à révéler son identité. Donc voilà, tout ça pose un certain nombre de questions et dans tous les cas, si on contribue à ce genre de projet et qu'on s'identifie, eh ben, il y a intérêt à se construire une sacrée carapace et en tout cas à communiquer de manière hyper prudente et d'éviter, c'est sûr, certaines provocations un petit peu trop rapides. Encore une fois, ce qui ne déculpabilise absolument pas la communauté d'avoir réagi comme elle l'a fait, mais c'est sûr que tout ça a des impacts dans tous les sens. Et sinon, évidemment, le danger avec des événements comme celui-là, bah, c'est tout simplement de décourager d'autres contributeurs existants, donc de les faire fuir, ou même des contributeurs futurs, donc de les décourager de rejoindre les efforts communautaires avec toutes les initiatives qui peuvent être perdues dans le processus. Après, il y a aussi la question plus profonde de la gouvernance d'un projet comme celui-là, qui a finalement amené quelqu'un comme Afri Shedden à ressentir le besoin d'être aussi provocateur publiquement au lieu de faire valoir ses inquiétudes dans un processus plus interne et plus constructif. Mais bon, voilà. Donc, la lettre ouverte appelle d'ailleurs à poursuivre la discussion à l'occasion de la conférence ETHCC. Donc, je rappelle, c'est cette conférence Ethereum qui aura lieu à Paris les 5, 6 et 7 mars. Il y a encore des tickets. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Ça va être super intéressant. Tous les grands acteurs de la communauté seront là. Et là, du coup, il y aura des discussions encore super intéressantes sur la gouvernance qui vont avoir lieu. Donc, affaire à suivre. Voilà pour cette partie de la communauté et des actualités. Passons maintenant au cas, à la saga Quadriga CX, épisode, je crois que c'est l'épisode 2 encore. Qu'est-ce qui s'est donc passé ces deux dernières semaines dans le dossier Quadriga CX? Alors, faisons un petit statut quand même pour remettre les choses dans le contexte. On rappelle, Quadriga CX, c'est cette place de marché crypto canadienne dont le fondateur est décédé en décembre 2018 en Inde des suites d'une maladie de Crohn a priori. Le problème, la polémique, est née du fait que sa veuve, Jennifer Robertson, a déclaré qu'une bonne partie des fonds de la société, et notamment des fonds en crypto, étaient bloqués sur des wallets dont seul son défunt mari avait les clés privées. et donc que par conséquent les fonds étaient probablement perdus. Donc une bonne partie de l'argent qu'ils doivent en gros à leurs clients, que les, dont les clients, leurs clients leur avaient fourni, leur avaient confié la responsabilité, serait tout simplement, tout bonnement et simplement perdu. Par conséquent, la société avait demandé à bénéficier d'un statut de protection qui interdit les procès de la part des clients, notamment pendant un mois, le temps que la société trouve des solutions pour tenter de récupérer les fonds. Et pendant cette période, un auditeur externe, en l'occurrence la société Ernst & Young, a été désigné pour prendre le contrôle de la société et justement tenter de trouver des solutions pour retrouver les fonds. Cette période de protection doit se terminer le 7 mars, en tout cas la première, et en préparation de cette date, et donc a priori de la fin de la protection, un certain nombre de cabinets d'avocats étaient déjà évidemment en concurrence pour représenter les clients mécontents de Quadriga CX dans une class action comme on les fait assez souvent en Amérique du Nord. Le 19 février, il se trouve que le tribunal de Nouvelle-Écosse a désigné justement deux cabinets d'avocats, donc Miller Thompson et Cox & Palmer, si ça vous intéresse, pour représenter jusqu'à 100 000 clients de Quadriga CX à qui la société doit la bagatelle de quelques 200 millions de dollars à peu près. Les cabinets en question ont été choisis pour leur expérience dans tout ce qui est insolvabilité des sociétés et aussi des cas liés aux crypto-monnaies. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont été choisis. Maintenant, évidemment, ils peuvent pas encore ils peuvent déjà monter leur dossier, mais ils ne pourront pas porter plainte effectivement avant la fin de cette période de protection qui pour l'instant est planifiée pour se terminer le 7 mars. D'ici là, Quadriga CX doit être justement auditionné le 5 mars pour faire état de ses progrès dans la récupération de ces quelques 200 millions de dollars qu'ils doivent à leurs clients. Entre-temps, Quadriga CX a déjà transféré tous les fonds auxquels ils avaient encore accès à Ernst & Young. Alors, non pas sans se planter au passage, hein, puisqu'ils ont quand même réussi ces espèces de schmilblick à envoyer 100 bitcoins vers un wallet à froid auquel ils n'ont plus accès. Hein, whoopsies, j'ai envie de dire. Par la suite, Ernst & Young a expliqué qu'en fait c'était une erreur technique, qu'ils avaient oublié de mettre à jour une adresse dans un fichier de configuration, je sais pas quoi. Enfin, c'est même pas Ernst & Young eux-mêmes, a priori, ce serait Quadriga CX. Encore une fois, il y a un bon paquet de bras cassés chez eux, visiblement. Et donc, Ernst & Young cherche toujours à récupérer les fonds en crypto et à récupérer aussi plusieurs dizaines de millions de dollars, quand même, qui sont coincés chez des processeurs de paiement tiers qui ont bloqué les fonds de leur côté parce que pour l'instant, Quadriga CX n'a pas vraiment un compte en banque correct à utiliser pour recevoir tous ces paiements. Donc voilà, dans le même temps, il se trouve que la veuve qui s'était retrouvée à devoir gérer tout ce micmac, on va dire pour rester poli, a demandé au tribunal de nommer quelqu'un pour la remplacer. Parce que franchement, c'est pas gentil, les gens font que de l'embêter et d'aller dire que c'est une méchante fifi et qu'elle a planqué les fonds. Faut pas en vouloir aux gens s'ils sont un petit peu parano, hein. C'est pas la première fois qu'on se fait avoir avec des « Oups, j'ai perdu ma clé privée ». Donc voilà, on peut être méfiant aussi. Les avocats, évidemment, demandent déjà une extension de 45 à 60 jours pour la période de protection. Parce que pour eux, 30 jours, c'est pas suffisant. Ils auront pas réussi à trouver le truc. C'est pas parce qu'ils l'ont demandé qu'ils vont l'obtenir, hein, leur extension, soyons clairs. Enfin bref... C'est un peu la même merde. Tout ça parce qu'on a laissé des gens qui connaissaient visiblement pas grand-chose aux cryptos gérer une boîte comme celle-là. Hein, j'ai envie de dire, mais que fait le régulateur, hein, ce fameux régulateur qui est censé vérifier que ces sociétés, nous protéger des abus de ces sociétés, hein, qui sont pour le coup régulées. Voilà, encore une fois, hein, je rappelle au passage que ces places de marché ne font pas partie de la blockchain, elles sont simplement des utilisateurs de la blockchain au même titre que vous et moi. Et par contre, à côté de ça, c'est des sociétés commerciales qui sont censées être régulées et régulièrement auditées et que sais-je, contrôlées, enfin bref. Qui opère dans un cadre légal. Donc, comme quoi, ce cadre légal, c'est pas la panacée non plus. Ah oui, et au fait, petite news comme ça sur le côté, j'ai oublié de vous signaler que Kraken, donc autre place de marché un petit peu plus gigantesque, on va dire, hein, un peu plus réputée chez les traders notamment, offre 100 000 dollars à toute personne qui les aidera à retrouver les fonds de Quadriga. Bah oui, parce que Quadriga, ils se sont pas, ils se sont pas laissés aller, on va dire, à révéler les comptes crypto sur lesquels seraient justement les fonds auxquels ils ne peuvent plus accéder, parce qu'ils doivent quand même avoir les adresses publiques quelque part. Et ça, ces infos-là, on les a pas, donc on ne sait pas exactement combien il y a sur ces comptes, autrement que via leur déclaration à eux, et surtout on ne sait pas s'il y a eu des mouvements suspicieux depuis. Donc ça va être compliqué, donc c'est pour ça que Kraken est particulièrement intéressé pour savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ces fonds, sachant qu'ils ont dit que toute information dont ils disposeraient, ils les communiqueraient directement à la justice, évidemment. Donc à bon entendeur, si vous voulez vous faire 100 000 dollars et que vous avez des infos à fournir à Kraken, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'imagine qu'on va en reparler encore dans les épisodes suivants, parce que visiblement, malgré les... Enfin voilà, vu les montants dont on parle, et vu l'aspect inédit du décès, etc., et de voilà comment la situation a été gérée, et de l'absurdité aussi de la façon dont ça a été géré avec ces clés dont seule une personne avait la disposition. Enfin, c'est vraiment très très louche. Donc ça intéresse de près pas mal de gens dans l'industrie et même dans le grand public. Donc on continuera à suivre cette affaire et à vous en tenir informés. Et puis je voulais terminer cette revue d'actualité cette semaine parce que par un sujet un petit peu plus large, parce que j'ai noté un certain nombre d'informations d'actualité dans les dernières semaines qui montrent que un certain nombre d'acteurs assez majeurs dans le monde de la tech s'intéressent de plus en plus près à la blockchain. C'est intéressant dans le sens où les premiers acteurs traditionnels à s'intéresser à la blockchain, évidemment, c'est tout ce qui est entreprise de la fintech et banque d'une manière générale. Évidemment, ça vient de l'histoire, de l'origine financière de la blockchain à travers Bitcoin. C'est un peu eux qui se sont intéressés les premiers. Mais dans les news des dernières semaines, on peut effectivement remarquer un certain nombre d'actualités impliquant des grands acteurs de la tech qui n'ont pour autant pas un lien direct avec la finance. Ce qui pour moi est un marqueur assez intéressant qui semble indiquer que les esprits s'éveillent progressivement à la possibilité que le véritable potentiel de la blockchain s'étende bien au-delà de ses racines crypto-monétaires. Et après, il reste quand même le risque également assez grand que certaines de ces initiatives finissent dans le même genre de compromis consanguin, on va dire, auquel les banques nous ont habitués, à base d'avions sans ailes et autres Ferrari sans moteur, et je vous passe toutes les analogies que j'ai déjà utilisées pour expliquer ces compromis. Mais bon, passons quand même en revue certaines de ces initiatives, et je vous laisse juger de leur intérêt et de leur potentiel. On va commencer par Apple, qui vient de fournir à la SEC, donc l'autorité de régulation des marchés financiers américaine, un document détaillant leurs efforts en termes de traçabilité de leur chaîne de valeur, et notamment du sourcing de leurs matériaux pour la fabrication des téléphones, de leurs ordinateurs, etc., etc. Et parmi ces efforts, il est question notamment de leur participation dans la rédaction de guidelines pour une association professionnelle qui s'appelle la Responsible Business Association. Et donc parmi ces guidelines qu'ils ont écrit pour cette association, il est question d'intégration de la blockchain dans les processus de sourçage et de suivi des matériaux utilisés dans les processus de fabrication. Alors il n'est pas vraiment encore question du coup d'intégration de la blockchain dans les produits de la société, hein, donc ça ne va pas être du visible par le client là maintenant tout de suite, mais plutôt dans des processus internes de gestion. Pour autant, rappelons au passage que Apple est aussi un acteur notoire de la fintech à travers son système Apple Pay, et aussi qu'ils ont été pionniers dans tout ce qui est innovation en ce qui concerne les microtransactions pour les produits culturels. Et donc, dans tous ces efforts-là, la blockchain pourrait avoir un rôle à jouer à l'avenir. Hein, on rappelle que, par exemple, quand vous achetez un titre, isolé qui va vous coûter $1 ou $1.30 sur iTunes, et ben évidemment si vous les facturez tout de suite, ça leur coûterait plus cher en frais de transaction carte bancaire que ce que ça leur rapporterait. Donc pour cette raison-là, ils ont tout un système de batching de paiement qui font que ben en gros ils attendent quelques jours, ils essayent de packager plusieurs transactions à la fois et ils vous facturent que par batch pour éviter d'avoir des frais de transaction trop importants à payer. Évidemment, si vous pouvez utiliser les crypto-monnaies pour ce genre de micro-paiement, ça pourrait avoir un intérêt non négligeable pour eux. Je dis pas que c'est ce qu'ils vont faire, mais c'est du domaine de l'envisageable, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour Apple. Deuxième annonce à faire pas mal de bruit, c'est celle d'une interview d'Elon Musk, dans laquelle il a déclaré que, d'après lui, Bitcoin était brillant, et même bien mieux que la monnaie papier pour tout ce qui est transfert de valeur. Alors c'est intéressant de voir une opinion aussi tranchée et aussi affirmée de la part d'Elon Musk, puisque pour l'instant il était resté relativement discret par rapport au blockchain et aux crypto-monnaies en général. Il avait, comme à son habitude, produit deux ou trois trolls sur Twitter à une époque où les gens s'amusaient à utiliser son identité, essayer d'utiliser son identité pour vendre des tokens ou arnaquer les gens avec des tokens crypto, enfin des crypto-monnaies et autres choses de ce genre-là. Mais au-delà de ça, il n'était jamais vraiment intervenu directement sur le sujet. D'un autre côté, voilà, malgré cette petite opinion positive, il a quand même souligné qu'une des raisons pour lesquelles ces sociétés ne s'impliquaient pas plus activement dans ces technologies, c'était la consommation énergétique des crypto-monnaies qui pourrait être perçue comme contraire à la vision notamment de Tesla. D'accélérer l'avènement d'un mode de consommation d'énergie plus soutenable, on va dire, pour faire une traduction un petit peu littérale du truc. D'un autre côté, on se souvient que le fondateur de Tesla avait déjà indiqué qu'il envisageait un modèle d'utilisation partagée de ses voitures autonomes qui permettrait éventuellement aux propriétaires de gagner de l'argent en mettant leur voiture à disposition d'autres utilisateurs. Et dans un cas comme celui-là, encore une fois, on peut souligner le fait que la crypto-monnaie pourrait être un cas d'utilisation parfait dans ce contexte. Donc voilà. Moi, la question que je me pose, c'est tout simplement pourquoi Tesla ne s'implique pas plus, par exemple, dans l'installation de nœuds crypto-monnaies combinés à leurs panneaux solaires et à leurs toits solaires. On rappelle qu'ils ont aussi ce genre de produits-là dans leur gamme. Ou plus loin, participer au financement de la recherche sur les algos de consensus moins gourmands en énergie, comme par exemple le Proof of Stake. Ils pourraient faire ça. Pour l'instant, ils le font pas. À voir, à suivre, mais toujours est-il que c'est une opinion assez intéressante. Parlons ensuite de Twitter. Alors, on vous parlait dans les épisodes précédents de l'expérience de la Lightning Torch, qui passait en ce moment de main en main via le hashtag LN Trust Chain sur Twitter, à laquelle d'ailleurs Jack Dorsey, un des cofondateurs de Twitter, avait aussi participé. Au passage, Jack Dorsey, c'est aussi un des investisseurs d'un des principaux projets d'implémentation du Lightning Network. Donc, il est vraiment assez impliqué dans tout ce qui est Lightning Network, Bitcoin, etc. Indépendamment de ça, donc c'est pas lié directement à Twitter, mais ça se passe sur Twitter quand même, la startup Tipeee a lancé une extension pour le browser Chrome qui permet d'injecter dans l'interface de Twitter un bouton qui permet de laisser un pourboire à l'auteur d'un tweet via le Lightning Network. Donc déjà une première utilisation, on va dire, concrète pour faire des micro-paiements accélérés et intégrer tout ça dans l'interface de Twitter. Donc c'est quand même assez intéressant. Et l'idée, c'est encore une fois d'envoyer et de recevoir des micro-paiements sur Bitcoin. Idée qui en soi est assez vieille, ça fait des années qu'on parle de ça, mais jusqu'à maintenant elle avait été plus ou moins laissée au placard juste à cause des temps de transaction, minimum 10 minutes, et des frais qui pouvaient éventuellement en découler. Avec le Lightning, tout ça redevient réaliste et donc l'idée sort du placard et elle se concrétise par exemple avec Tipeee. Donc même si cette initiative, encore une fois, n'est pas liée directement à une volonté du management de Twitter, elle s'y intègre naturellement et je suis sûr que Jack Dorsey n'y voit rien de néfaste, bien au contraire. À noter quand même, au passage, je souligne, qu'en utilisant Tipeee pour recevoir des pourboires, vous n'avez pas encore le contrôle complet de vos fonds, donc qui sont custodiennes, c'est-à-dire que c'est eux qui gardent vos clés privées, en gros. Donc, c'est plus facile, mais c'est pas très décentralisé, hein, comme d'habitude, comme avec les systèmes de place de marché, même combat. Donc, voilà, si vous voulez utiliser le système, gardez ça à l'esprit. Voilà. Et puisqu'on est dans les réseaux sociaux, parlons aussi de Facebook. Alors, on rappelle que début 2018, Zuckerberg avait annoncé vouloir s'intéresser de près à la blockchain dans le cadre de ses objectifs d'exploration, comme il le fait chaque année. S'en était suivi le lancement d'un projet interne dirigé par l'ex-patron de la division Messenger, à savoir David Marcus. Et il semble maintenant que Facebook soit prêt à faire des premières annonces dans ce domaine. Alors, il est d'abord intervenu dans une interview pour souligner l'intérêt qu'il portait à une éventuelle solution d'authentification décentralisée qui pourrait éventuellement peut-être avoir un jour remplacé Facebook Connect, de manière à donner aux utilisateurs et aux développeurs un peu plus de contrôle sur les données qui circulent, sur comment elles sont partagées, etc. Et puis sur les accès tout simplement à l'authentification. Alors c'est intéressant de le voir lui suggérer ça, parce qu'évidemment ça mettrait un sacré coup de canif dans le business model qu'il peut y avoir derrière un truc comme Facebook Connect. D'un autre côté, c'est un peu Facebook Connect qui a été à la base de tous leurs problèmes avec Cambridge Analytica, etc. Donc on comprend bien qu'ils cherchent des moyens de se débarrasser de cette responsabilité-là aussi. Mais ici, l'annonce la plus concrète, enfin l'élément le plus concret qui est sorti ces dernières semaines, c'est surtout que apparemment Facebook envisagerait de lancer sa propre crypto-monnaie et aurait déjà entamé des discussions avec plusieurs places de marché dans ce sens. Le lancement pourrait intervenir éventuellement dans le courant de la première moitié de 2019 et il pourrait s'agir d'une, encore une fois tout ça est au conditionnel encore, il pourrait s'agir d'une stablecoin, donc encore une fois une crypto-monnaie mais indexé sur le dollar américain par exemple, utilisable dans WhatsApp et donc à terme dans toutes ces applications de messagerie pour s'envoyer des paiements directement d'utilisateur à utilisateur. Alors, vous me connaissez, je ne peux pas m'empêcher de souligner ici, encore une fois, le spectre de l'avion sans aile qui pointe son nez, parce que est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'une stablecoin, c'est vraiment une crypto-monnaie décentralisée, dans la mesure où qui dit indexation sur une monnaie centralisée dit quelque part une gouvernance centralisée quand même, donc voilà, on n'est pas vraiment dans le cadre d'une crypto-monnaie décentralisée. Du coup, c'est quoi l'intérêt pour eux? Est-ce que c'est essentiellement d'échapper à certaines régulations financières? Est-ce que c'est un vrai intérêt technique? J'ai encore du mal à voir les choses. Voilà, je me contente ici de souligner les limites de ce système. Mais toujours est-il que voilà, Facebook en parle aussi. Et c'est pas négligeable quand même, on se devait d'en faire l'écho. Dernière société et non des moindres et probablement un des projets les plus intéressants de tout cela qui a fait pas mal parler d'elle dans le monde de la blockchain, on va parler de Samsung. Vous avez certainement vu passer dans la presse ces news concernant le nouveau smartphone révolutionnaire de Samsung, à savoir le Fold, donc ce smartphone pliable en deux morceaux. Mais Samsung a récemment aussi annoncé son smartphone plus conventionnel, on va dire, le Galaxy S10. Maintenant, il n'est pas tout à fait conventionnel non plus, en tout cas pas pour nous autres enthousiastes des crypto-monnaies et des blockchains, parce que ce smartphone pourrait quand même inclure une innovation intéressante pour nous autres, à savoir la présence d'une fonction de stockage sécurisée pour les clés cryptographiques des crypto-monnaies. C'est une évolution de leur technologie Samsung Knox qu'ils utilisaient déjà auparavant pour des stockages de mots de passe et d'autres éléments sécurisés. Et là, ils l'ont étendu pour supporter aussi le stockage des clés privées, notamment de wallets en crypto-monnaie. Donc en gros, ce que ça devrait permettre de faire, c'est de disposer d'un wallet hardware intégré dans son smartphone Galaxy S10. En gros, ça se pose clairement comme concurrent à d'autres offres dont on a déjà parlé, comme ce que HTC entend proposer avec son Exodus ou encore Sirin Labs avec son Fini. Sauf qu'évidemment, Samsung, ils ont une part de marché bien plus importante, un nombre de devices vendus beaucoup plus important, et donc ça pourrait avoir des conséquences non négligeables pour la mise à disposition, on va dire, la popularité et l'utilisation de ces crypto-monnaies et de ces wallets. Donc, en gros, on pourrait posséder, on pourrait transférer et on pourrait même utiliser des crypto-monnaies dans des applications décentralisées directement depuis son smartphone, avec toujours la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe quand je perds mon téléphone, que je me fais voler ou que je le casse, par exemple? Est-ce que ça veut dire que je perds tous les fonds que j'avais stockés sur mon téléphone, sachant que ma clé, elle était que là? Est-ce que ça veut dire que du coup, Samsung va conserver une copie de ma clé quelque part pour me permettre de la récupérer en cas de perte? Si c'est le cas, ben du coup, ça rajoute une faille de sécurité supplémentaire. Donc voilà, c'est quand même un petit une question qui se pose. Autre question non négligeable à laquelle Samsung va devoir apporter des réponses, c'est quel est le niveau d'accès à ce wallet, à ces clés privées pour l'OS qui tourne dessus, qui tourne sur le téléphone, à savoir qu'on parle d'un Android assez sophistiqué, assez générique, et si lui il a accès à ça, ben potentiellement ça peut aussi ouvrir des accès à des applications tierces avec des problèmes non négligeables. Et c'est d'ailleurs pour ça que des wallets hardware comme le Ledger ou le Trezor ont une couche logicielle très fine pour éviter ce genre de vecteur d'attaque. Donc voilà, il y a des questions qui restent ouvertes, il y a déjà des démos qui ont commencé à avoir lieu dans certains cercles. On va attendre le lancement officiel du smartphone, enfin le début des livraisons qui devrait être le 8 mars, donc la semaine prochaine, au moment où j'enregistre cet épisode, pour voir effectivement de quoi il va en retourner. Mais d'une manière générale, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour l'adoption de ces technologies. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'entreprises de la tech d'une manière générale qui s'intéressent à ça d'assez près, et je trouve ça assez positif pour l'écosystème, même si encore une fois, il faut surveiller les tendances et les voies que ça va suivre. Et voilà qui conclut cette revue d'actualité pour cet épisode 22. J'en profite avant de conclure pour vous rappeler que, encore une fois, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des demandes de précision par rapport au contenu de ces épisodes, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires sur le blog post, enfin sur le blog de l'émission, sur proofofcast.com ou sur les réseaux sociaux, proofofcast sur Twitter ou sur Facebook. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires et vos reviews par rapport à ce podcast sur iTunes, par exemple. Ça nous aide à faire connaître le podcast au plus grand nombre. Donc allez-y, là, maintenant, tout de suite, arrêtez ce que vous faites, paf, vous allez sur iTunes, pif, ça vous prend 2 minutes, vous mettez le nombre d'étoiles que vous voulez avec le petit commentaire qui va bien. Nous, ça nous fait plaisir et surtout, ça nous permet de répandre la bonne nouvelle du Proof of Cast. Et encore une fois, on attend aussi votre avis sur le sondage pour les dossiers du Proof of Cast sur dossier.proofofcast.com. En ce qui me concerne, vous pouvez toujours me retrouver dans Les Technos, donc sur lestechnos.be, un autre podcast, mais là dédié à la technologie en général. Vous pouvez aussi me retrouver sur Udemy, où j'ai toujours mon cours, où j'ai toujours notre cours Chain Skills avec Saïd et Loudriri, concernant le développement de smart contracts sur la plateforme Ethereum. Donc si vous êtes développeur et que ça vous intéresse d'explorer ces technologies-là, vous pouvez bénéficier de notre cours pour 10 euros avec le code ProofOfCast. Tout cela étant dit, le prochain épisode, le numéro 23 du ProofOfCast, sera diffusé le 16 mars. Donc je vous donne rendez-vous le 16 mars et en attendant, je vous souhaite une excellente continuation. À bientôt, au revoir.